Il est midi et demi sur France Culture. Alors pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La cité balnéaire de Biarritz vit ses toutes dernières heures sous la cloche ultra sécurisée du G7. Le sommet doit s'achever en début d'après-midi avant une dernière conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Il devrait notamment y être question d'un possible accord sur la taxation des géants américains de l'Internet. En revanche, restent toujours les inquiétudes provoquées à la fois par la crise iranienne, la guerre commerciale sino-américaine ainsi que les feux de forêt qui continuent de ravager l'Amazonie. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, des frappes en Syrie, mais aussi des accusations d'attaques aux drones au Liban et en Irak.
Mais la confrontation indirecte entre Israël et l'Iran, jusque-là limitée au conflit syrien, menace désormais de déborder sur deux autres fronts.
L'Italie attend toujours une majorité et un Premier ministre.
Et les tractations vont bon train, notamment entre le Parti démocrate de centre-gauche et le mouvement 5 étoiles anti-système pour essayer de former une nouvelle majorité. Enfin, en France, après une fin d'année partie particulièrement tendu, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer reçoit cette semaine les organisations syndicales. Objectif déminer une rentrée à risque. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et c'est une spéciale rentrée littéraire aujourd'hui avec ensuite, maintenant, les essais. On va aller voir du côté des fictions d'Apocalypse. Notre invité se demande aujourd'hui pourquoi un tel succès, pourquoi imaginer la fin du monde nous permettrait peut-être aux yeux des lecteurs d'imaginer aussi ou d'empêcher le pire d'advenir. À retrouver donc à partir de 12h55.
Merci et à tout à l'heure. Chaque année, à l'heure où l'épilogue du grand raout des sept puissances économiques est sur le point de s'écrire, la question reste invariablement la même. Les dirigeants de ce club informel parviendront-ils à s'entendre sur un communiqué final commun? Ou dit autrement, le G7 sera-t-il marqué du sceau de l'échec ou du succès? D'ailleurs, compte tenu du nombre de points de divergence, comment faudrait-il comprendre la notion même de succès, sinon que par l'absence de réels engagements plutôt que l'aggravation des fractures déjà existantes? Pour autant, une bonne nouvelle est tout de même parvenue ce matin depuis la cité balnéaire de Biarritz. Elle concerne la taxation des géants américains du numérique, véritable pomme de discorde entre Paris et Washington. La France, vous le savez, a voté une taxe sur le chiffre d'affaires des GAFA sur son territoire. Du coup, les États-Unis menaçaient en représailles de taxer les vins français. Et finalement, eh bien, un projet d'accord aurait été trouvé en marge du sommet. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
En quoi consiste cette ébauche d'accord?
Alors, la France va bien appliquer sa taxe nationale aux géants du numérique, 3% prélevé sur le chiffre d'affaires réalisé cette année, mais dès qu'un dispositif international équivalent sera trouvé, eh bien, Paris s'engage à rembourser, le cas échéant, la différence aux entreprises concernées. Autrement dit, si ce qui est décidé au niveau de l'OCDE est plus intéressant pour les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et autres, que ce qui a été arrêté au niveau français, eh bien, ce sera rétroactivement pris en compte. Alors ce compromis, eh bien, il a été peaufiné pendant le week-end par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, accompagné du conseiller économique de Trump. Ça s'est passé samedi midi dans la propriété du ministre à Saint-Pé-sur-Nivelle près de la Côte Basque. Et puis, hier soir, il y a eu un dîner dans le restaurant Les Rosiers à Biarritz avec en plus autour de la table le représentant américain au commerce. Ce projet a été validé par Emmanuel Macron. On attend maintenant le feu vert de Donald Trump. Mais déjà en fin de matinée, le président américain a fait savoir qu'on s'approchait d'un accord sur cette question. Alors l'OCDE s'est donné, on le rappelle, jusqu'à la fin 2020 pour trouver un accord sur cette question de la taxation des géants du numérique. L'idée, c'est de réformer l'impôt sur les sociétés pour qu'il puisse être payé même quand l'entreprise en question n'est pas physiquement présente dans le pays. Reste encore donc à en définir les modalités.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors on l'a compris, des avancées semblent possibles s'agissant de cette taxation des géants américains du numérique par la France, s'agissant cette fois-ci de la guerre commerciale sino-américaine, dont beaucoup craignent qu'elle n'entraîne à terme une économie mondiale déjà flageolante vers la récession. Là, les perspectives semblent plus incertaines après que le principal négociateur de Pékin s'est dit prêt ce matin à poursuivre les consultations avec Washington afin de parvenir à un accord commercial. Eh bien, la Chine a finalement menacé de prendre de nouvelles mesures pour protéger ses intérêts si les États-Unis mettent en œuvre œuvre des droits de douane supplémentaires. Autre préoccupation, celle concernant le dossier du nucléaire iranien avec le risque d'une nouvelle dégradation de la situation au Moyen-Orient. La visite surprise hier à Biarritz du ministre iranien des Affaires étrangères à l'invitation de la France aura certes réussi à bouleverser l'agenda, mais sans toutefois réamorcer une quelconque renégociation. Tout juste Donald Trump a-t-il semblé prêt à laisser une chance à la diplomatie sur le dossier iranien, mais tout en réaffirmant aussitôt ses lignes rouges. Enfin, ultime sujet de discussion, les incendies qui continuent de ravager la forêt tropicale en Amazonie. Sur la défensive, le gouvernement de Jair Bolsonaro s'efforce depuis hier de montrer qu'il répond à la pression internationale. Plus de 43 000 soldats ont été déployés sur place et sur toutes les télévisions du monde tournent désormais les images de ces avions de l'armée brésilienne transformés pour l'occasion en bombardier d'eau. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Biarritz. Le sujet doit donc encore faire l'objet de discussions aujourd'hui, même si, Bertrand, il tourne surtout en réalité au règlement de compte personnel.
Oui, c'est un dérapage collatéral de la polémique sur l'Amazonie qui déchire la France et le Brésil. Après avoir insulté Emmanuel Macron par la voix du ministre brésilien de l'Éducation qui avait qualifié le président français de crétin opportuniste, le régime brésilien s'en prend à son épouse sur fond de querelles climato-diplomatiques. Et cette fois, c'est le président brésilien en personne qui se serait moqué du physique de Brigitte Macron après la publication sur Facebook par un autre internaute de photos comparées des premières dames brésiliennes et française. Le débat sur la déforestation et la non-ratification du traité Mercosur-Union européenne vire donc à la crise diplomatique. Les relations entre Paris et Brasilia étaient déjà au plus mal depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, très à droite de l'échiquier politique. Visiblement, le président brésilien n'a pas supporté d'être montré du doigt au G7 comme le mauvais élève en matière de climat et de biodiversité. La catastrophe en cours au Brésil est désormais un marqueur de la politique environnementale et climatique qui se discute aujourd'hui à Biarritz, le G7 où le chef indien Rahoni est attendu à l'invitation d'Emmanuel Macron.
Merci Bertrand Galichet en direct de Biarritz. Et pour continuer d'évoquer ce sommet du G7 avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et pour commencer, j'en reviens à ces toutes premières questions donc, que j'évoquais déjà en début de ce journal. À quelques heures de la fin de ce G7 édition 2019, Pascal Boniface, doit-on parler de succès ou d'échec?
Tout dépend si l'on voit le verre à moitié plein ou moitié vide, comme d'habitude. Si on attend de ce type de sommet qu'il règle des problèmes qui sont sur la table depuis très longtemps et qui sont très compliqués, sur lesquels les positions sont très divergentes, non, il n'y aura pas de succès. Mais si on pense que c'est tout à fait inutile de se voir, de négocier, de se parler, que ce n'est pas préférable aux affrontements, aux insultes, eh bien, finalement, et que ça puisse un peu aplanir certaines difficultés, remettre un peu le dialogue et aussi mettre sur le devant de la scène des problèmes absolument fondamentaux, tels que celui qui vient d'être évoqué par Bertrand Galichet sur la forêt amazonienne, eh bien, ce sommet n'aura pas été inutile.
Est-ce que cela signifie que le G7, finalement, n'a pas vocation à trouver de solution?
Non, ça veut dire que le temps diplomatique ne peut pas être un temps court, rapide, qui vient apporter des solutions concrètes, immédiates, à des problèmes de long terme. Le G7, bien sûr, a perdu de sa pertinence. Le monde occidental ne domine plus le monde, comme il le faisait lorsqu'il a été créé. Et donc, il ne peut plus donner des ordres au reste du monde. Et puis, on a aussi le...
En particulier à la Chine, rappelons-le, qui ne fait pas partie du G7.
Voilà, ni au Brésil, par ailleurs. Et par ailleurs, ce club occidental est pour le moins fissuré, puisque celui qui devrait être le leader naturel de ce club nie la notion même de famille occidentale, puisque pour Donald Trump, il y a les États-Unis et le reste du monde. Donc c'est bien sûr un peu plus compliqué. Mais finalement, on voit quand même que il était intéressant de voir que tant sur la guerre commerciale que sur l'Iran, Boris Johnson était toujours du côté des Européens et ne s'est pas rallié à son mentor américain. Sur le textile, par exemple, sujet peut-être qui n'est pas au devant de l'actualité, mais qui est très important, on a trouvé une solution concrète qui va faire un petit peu baisser la pollution. Donc une fois encore, il n'y a pas de solution miracle en diplomatie. La prévention ne se voit pas immédiatement, mais lorsque la diplomatie ne marche pas, eh bien le coup, là, il est immédiat. Et donc bien sûr, sur le cas iranien par exemple, il est évident que Donald Trump, pour lequel cette affaire iranienne est avant tout une affaire de politique intérieure, ce n'est pas lors d'une médiation internationale qu'il va changer de position sur l'Iran. Mais si au moins le bruit des canons s'est un peu assourdi, un peu éloigné. Et si on parle plutôt de diplomatie que de politique de la canonnière, c'est un progrès limité, mais une fois encore, il n'y a pas en diplomatie de solution miracle.
Alors c'est vrai que le coup de théâtre de cette année aura été sans conteste la venue surprise donc du ministre iranien des Affaires étrangères, lequel n'aura in fine rencontré personne à l'exception des représentants français. Diriez-vous que le coup de poker d'Emmanuel Macron a échoué ?
Non, il ne peut pas échouer parce qu'il n'a rien perdu. En fait, soit d'ici quelques temps, il y aura un progrès, ce qui est peu probable, mais il y aura un progrès dans ce dossier. Emmanuel Macron pourrait dire, eh bien, vous voyez, j'étais à l'initiative, j'ai semé les premières graines. Soit, en fait, je pense que sa stratégie dans l'affaire, c'est de continuer à endosser l'habit du défenseur du multilatéralisme. La visite de l'Iranien n'a pas aggravé la situation. Et en tous les cas, Emmanuel Macron peut dire, j'ai tout tenté, j'ai toujours essayé de défendre le multilatéralisme, c'est sa position. C'est la position qu'il a à l'ONU lorsqu'il fait un discours peu après le président Trump par rapport aux solutions unilatérales de Donald Trump. Pour l'instant, il arrive à donner une position différente sans antagoniser les relations avec Trump. Mais au bout d'un certain temps, effectivement, il y a la limite de l'exercice. C'est que c'est bien de défendre des positions différentes, mais encore faut-il qu'elles soient mises en œuvre. Mais en tous les cas, une fois encore, sur ce dossier iranien, l'intérêt majeur, c'est d'éviter un affrontement, fût-ce par accident, dans cette région, dont les conséquences seraient bien plus larges que le seul aspect régional.
Mais Donald Trump n'est pas le seul à avoir refusé de rencontrer le ministre iranien. La rencontre n'aura été que bilatérale entre la France et l'Iran.
Oui, parce que c'était sur le sol français et qu'il était peu approprié que les autres le voient. C'était vraiment, effectivement, une sorte de bilatéralisme, de même que, en des temps un peu antérieurs, le Russe et l'Indien ont vu le président français.
Si l'on se réfère à l'édition précédente, laquelle avait tourné au véritable fiasco, il semble qu'Emmanuel Macron ait réussi pour l'heure à limiter, disons, les dégâts, avec peut-être aussi un avantage certain cette année, c'est que les participants étaient majoritairement affaiblis. C'était le cas de Justin Trudeau, en délicatesse avec la justice au Canada, d'Angela Merkel, en fin de règne, de Boris Johnson, toujours perdu dans l'épais brouillard londonien du Brexit, et puis sans parler de Giuseppe Conte, démissionnaire.
C'est à la fois effectivement de ce fait, de cette absence, Emmanuel Macron reprend un peu la position qui a été la sienne peu après son élection, où il était au centre de la scène internationale. Là, il est au centre plus par le vide de ses éventuels concurrents ou partenaires que par ses positions. Mais en même temps, c'est aussi une faiblesse parce que, du coup, la France manque de partenaires. La France n'a pas intérêt à avoir des pays trop faibles qui ne peuvent pas la suivre. Et si l'on veut, sur ces dossiers-là, l'important, c'est de tenir tête aux États-Unis, d'essayer d'inverser le rapport de force avec des partenaires faible, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, le fait que l'Italie, le Canada et l'Allemagne soient affaiblis ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron.
Qui reste isolé,
et c'est bien le sujet, c'est que pour défendre le multilatéralisme, il faut être plusieurs. Et là, dans cette croisade pro-multilatéralisme dont Emmanuel Macron se fait le pro-chevalier, il manque deux compagnons d'armes.
On sait que le prochain G7 aura lieu à Miami, il sera présidé par un certain Donald Trump, à quelques semaines seulement de la présidentielle américaine. Est-ce que ce pourrait être l'occasion pour le président de lâcher un peu de lest, ou bien au contraire, est-ce qu'il se servira de cette tribune pour surtout ne rien lâcher?
Il se servira de cette tribune pour surtout faire de la politique intérieure et pour montrer au peuple américain qu'il a obtenu du monde extérieur des résultats que ses prédécesseurs n'avaient pas obtenus. Donc on peut craindre que ce prochain sommet du G7 ne soit pas une partie de plaisir, puisque les objectifs de politique intérieure de Donald Trump sont souvent à l'inverse des objectifs de politique extérieure des autres participants.
Y a-t-il, en fin de compte, dans ces sommets, une manière de trouver des solutions ?
C'est difficile si un partenaire majeur n'en veut pas, mais on peut toujours dire quand même, une fois encore, c'est la grandeur et la misère de la diplomatie qui n'est pas toujours spectaculaire. C'est ça, en même temps, sa part d'être. Et donc, effectivement, il faut toujours travailler à cela. Mais là, si par exemple, il y a un accord sur les GAFA, qu'on évite une taxation des vins français et le début d'une guerre commerciale avec les États-Unis, ce serait une bonne chose. Mais on voit aussi que c'est préparé par un rapport de force. Que la diplomatie, c'est aussi un rapport de force. Ce n'est pas seulement des négociations. Et le fait que, par exemple, Donald Tusk dise « si les vins français sont taxés, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui réagira » était aussi un élément de forger un rapport de force plus favorable pour la France et les Européens face aux États-Unis.
Comme le fait la Chine, finalement, ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans la stratégie du bras de fer avec Donald Trump ?
Bah en fait, il ne comprend que cela. Il ne comprend que les rapports de force. Il est peu enclin aux concessions amicales. Pour lui, il n'y a pas d'alliés. Sa ligne principale, c'est de voir la balance commerciale. L'Allemagne est un pays allié depuis l'origine de l'OTAN, mais sa balance commerciale est fortement favorable et défavorable aux États-Unis, donc il le traitait comme un pays ennemi. Il a quand même dit que l'Union européenne était un des ennemis. C'est quand même fort comme mot, en la mettant sur le même plan que la Chine, alors que nous n'avons pas les mêmes relations. Donc il voit toujours à ce prisme-là. Et donc avec quelqu'un qui ne conçoit la vie qu'en rapport de force et plutôt à son avantage, on est bien contraint de réagir de la même manière et d'éviter toute naïveté.
Merci Pascal Boniface, directeur, je le rappelle, de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Après plus de deux mois de contestations pro-démocratiques, la police de Hong Kong a justifié ce matin, et pour la première fois, le recours à des canons à eau, mais plus encore aux tirs de coups de semonce à balles réelles. Au total, 36 personnes ont été arrêtées la veille, dont la plus jeune est âgée de 12 ans. Ces affrontements ont été parmi les plus violents depuis le début du mouvement anti-gouvernemental, dont les manifestations quasi quotidiennes secouent le petit territoire semi-autonome. Par ailleurs, l'un des grands centres financiers mondiaux, la bourse de Hong Kong, a d'ailleurs perdu plus de 3% à son ouverture ce matin. Et puis, à Macao, cette fois-ci l'autre ex-colonie faisant partie intégrante de la Chine, eh bien, un comité de 400 membres à la botte de Pékin a choisi un nouveau chef de l'exécutif. En réalité, le seul candidat en lice, bien déterminé à cimenter plus encore le contrôle du régime communiste sur le royaume mondial des jeux d'argent et ainsi se distancier du tumulte hongkongais. Guerre des mots et attaques de drones, des accrochages entre Israël et le Hezbollah se multiplient au Proche-Orient sur fond de bras de fer avec l'Iran. Fait exceptionnel, Israël a revendiqué ce week-end une frappe de drone visant une position pro-iranienne en Syrie. Un bombardement destiné à déjouer une attaque, selon l'État hébreu, sauf qu'il s'agissait d'une position du Hezbollah, du moins selon son chef Hassan Nasrallah. Du coup, le parti islamiste libanais proche de Téhéran et de Damas a promis une riposte, tandis qu'Israël serait impliqué depuis dans d'autres bombardements, et en particulier dans une zone du Liban, frontalière à la Syrie. Et puis l'aviation israélienne a également frappé dans la matinée plusieurs objectifs du Hamas, cette fois-ci dans la bande de Gaza, en riposte à des tirs de roquettes. D'où le risque, désormais pour l'État hébreu, et bien d'ouvrir un double front au nord et au sud. Les précisions à Jérusalem de la correspondante de RFI pour France Culture, Marine Vlaovic.
Les attaques aux drones sur des cibles pro-iraniennes attribuées à Israël se multiplient. Dernière en date, le bombardement cette nuit de positions militaires appartenant à une faction palestinienne, pro-syrienne et pro-Hezbollah dans la vallée de la Beka au Liban. Comme il est d'usage, l'armée israélienne ne commente pas, mais c'est un message clair destiné à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Dans un discours enflammé, ce dernier a accusé hier soir Israël d'avoir tué deux de ses militants en frappant l'une de ses bases près de Damas et d'avoir envoyé des drones dans le bastion du parti chiite libanais au sud de Beyrouth ce week-end. L'État hébreu est également montré du doigt pour une série de frappes visant des milices pro-iraniennes en Irak ces dernières semaines. Bien décidé à contenir l'influence de Téhéran dans la région, Israël élargit son champ d'action. Une stratégie dissuasive, mais un jeu risqué selon les experts et qui pourrait créer les conditions du pire scénario envisagé par l'État hébreu, c'est-à-dire un front au nord avec les milices pro-iraniennes, au Liban et en Syrie, et un front au sud avec les factions de la bande de Gaza. Alors que l'enclave palestinienne connaît un regain de tension, en riposte à de nouveaux tirs de roquettes la nuit dernière, Israël a bombardé plusieurs positions du Hamas et a réduit de moitié la livraison de carburant destinée à alimenter l'unique centrale électrique de la bande de Gaza.
Le futur gouvernement de la République démocratique du Congo a enfin été dévoilé la nuit dernière, 7 mois après l'investiture du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'Assemblée, réunie en session extraordinaire, a désormais jusqu'au 7 septembre pour l'investir. Le cas échéant, il s'agira de la première expérience de cohabitation dans ce pays, le plus grand d'Afrique subsaharienne. Cohabitation entre les forces politiques du président en exercice, donc d'un côté, et celle de son prédécesseur, Joseph Kabila, de l'autre, lequel a gardé la majorité au Parlement et dans les 26 provinces du pays. En Italie, là-bas, le président convoquera de nouveau les formations politiques pour des consultations demain, au terme desquelles il pourrait enfin annoncer la formation d'un gouvernement et le nom du Premier ministre. En maître des horloges, Sergio Mattarella veut aller vite pour éviter de prolonger l'instabilité politique de la troisième économie de la zone euro. Il a notamment exigé des partis une décision pour demain au plus tard, dans l'espoir de former une nouvelle majorité en remplacement de l'alliance populiste. Sauf que Matteo Salvini continue, lui, à jouer les troubles faits en proposant au mouvement 5 étoiles une réconciliation de dernière minute. Quoi qu'il en soit, et si aucune majorité solide ne devait émerger, eh bien le chef de l'État serait contraint de convoquer des élections anticipées le 10 novembre prochain. Les précisions à Rome d'Olivier Tosseri.
Dernière ligne droite dans les négociations entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, ou plutôt route sinueuse, les quelques jours de dialogue n'effacent pas les mois d'invectives entre les deux forces politiques. Les échanges se poursuivent néanmoins. Sur le programme, les points de convergence sont nombreux. Lancement d'un New Deal écologique, soutien accru pour les familles et la natalité, adoption d'une loi sur le salaire minimum, ou encore un budget qui empêche l'augmentation de la TVA tout en garantissant une baisse des impôts. Demeure pourtant un écueil sur l'étroit chemin qui mène à la naissance d'un nouvel exécutif, le nom du futur président du Conseil. Le mouvement 5 étoiles exige que Giuseppe Conte soit maintenu à son poste. Ce dernier ne cache pas ses intentions de continuer son travail et insiste sur le très bon accueil qui lui a été réservé au G7 de Biarritz. Le Parti démocrate le juge trop compromis par 14 mois d'alliance avec la Ligue de Matteo Salvini et demande qu'un homme nouveau incarne un nouveau projet pour le pays. Les pressions se sont pourtant multipliées pour faire sortir les négociations de l'impasse. Celle de Matteo Renzi, qui ne s'oppose pas à un Conte bis. Celle des proches du président de la République, Sergio Mattarella, qui affirme que le programme est plus important que le nom de celui qui le défend. Il jugera demain, lors de sa dernière journée de consultation, si un gouvernement, mouvement 5 étoiles, parti démocrate, est viable, sans quoi prendre la voie d'un retour aux urnes est inéluctable.
L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, comprenez la coalition sunnite qui depuis 2015 combat les rebelles chiites houssis au Yémen, ont mis sur pied hier un comité conjoint chargé de maintenir un cessez-le-feu dans deux provinces situées à l'est d'Aden, la ville où siège temporairement le gouvernement reconnu par Riyad et dont se sont emparées les forces séparatistes du sud du pays. Réforme du bac, mais aussi des retraites après une fin d'année particulièrement tendue. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, reçoit cette semaine les organisations syndicales pour déminer une rentrée à risque. L'année scolaire s'était achevée en juillet, on s'en souvient, sur une note amère, avec un bac entaché par une série de couacs, ainsi que par une grève de correcteurs opposés aux réformes du ministre. Et puis un peu plus tôt encore, au printemps, Jean-Michel Blanquer, considéré par nombre d'observateurs comme le bon élève du gouvernement, avait également traversé son premier trou d'air avec sa loi sur l'école contestée par de très nombreux enseignants et parents d'élèves. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors accusé par les syndicats de rester sourd à leurs revendications, le ministre n'a eu de cesse de répéter tout l'été que sa porte était toujours ouverte. Et ce matin, à une semaine donc jour pour jour de la rentrée, eh bien il recevait le premier syndicat du primaire, SNUIPP-FSU. Le ministre Hakim s'est-il montré prêt à négocier ?
Eh bien écoutez, d'après la FSU, le ton de Jean-Michel Blanquer a radicalement changé. Désormais, le ministre de l'Éducation se dit plus ouvert au dialogue avec les syndicats, notamment sur la question de la formation, mais aussi des retraites, avec des comités de suivi qui seront mis en place dès la rentrée, mais aussi sur la question qui reste toujours très épineuse, des salaires. Mais pour Régis Metzger, co-secrétaire du SNUIPP, qui assistait ce matin à la réunion avec le ministre, la prudence reste de mise.
Sur les salaires, une volonté est exprimée, un dialogue est ouvert, mais sur 2020, on ne va pas avoir autre chose que les mesures déjà prévues. Et donc les premières mesures ne seraient, on va dire, mises en œuvre qu'à partir de 2021, avec là quand même très peu de détails, puisque on nous a fait part de « il va falloir faire preuve de créativité à partir de 2021 ». Donc on est pour l'instant dans une volonté exprimée, nous on jugera aussi au contenu et dans ce que on va obtenir concrètement.
Alors pour l'instant, la seule chose d'acquise, c'est une augmentation de 2000 euros par an d'ici 2022, mais seulement pour les enseignants en zone d'éducation prioritaire, en REP et en REP+. Le SNUIPP qui ce matin a posé aussi la question des moyens, puisque Emmanuel Macron ne veut pas plus de 24 élèves par classe en élémentaire, en CP et en CE1. Enfin, le SNUIPP a demandé un meilleur accompagnement pour les AESH, qui sont les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap.
Merci Hakim Kasmi ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Le personnel de France Télévisions est appelé à une grève de 24 heures aujourd'hui pour protester contre la suppression du Soir 3, le journal télévisé emblématique de France 3 qui a basculé cette semaine sur France Info. Un changement vivement combattu en interne donc, mais qui a également suscité des protestations à l'extérieur avec notamment plusieurs pétitions dont l'une a déjà dépassé les 5000 signatures et la mobilisation de certains élus locaux et responsables politiques nationaux. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera mitigé du sud-ouest à la Bretagne et au Cotentin, avec quelques ondées possibles sur le Finistère et l'ouest des Pyrénées. Partout ailleurs, la journée sera encore estivale. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 37 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.